aussi les musiciens, les pianistes. Bien, gloire à Dieu. On est content aujourd'hui, on a Élodie, Titi, Élise avec nous. Bonjour Lucas, il est à Poumouze. Et on a le soleil, on a tout pour nous aujourd'hui, c'est bien. Et ce matin, je vais continuer un peu sur la lancée de ce que je vous ai dit dimanche passé, parce qu'il y a eu beaucoup de vues, beaucoup de personnes qui sont venues écouter. En fait, c'est, je ne me rappelle plus exactement, je vous dirai ça, je ne me rappelle plus. C'est des milliers, hein, je crois que c'est 20 000, quelque chose comme ça. C'est formidable. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. On va lire Jean chapitre 14. Versets 12 à 14. C'est Jésus qui parle et qui dit « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Amen. Mes frères et sœurs, les miraculeuses puissances de votre esprit existaient bien avant que vous veniez ici-bas. Prions. Seigneur Jésus, je te prie que tu éclaires mes frères et sœurs et qu'ils comprennent ce que j'ai à dire, parce que nous sommes dans les temps de la fin, le diable se déchaîne et il faut que l'Église se réveille pour manifester la puissance de Dieu qui est en eux. Au nom de Jésus, je te le demande. Amen. Amen. Le diable se déchaîne, c'est vrai. Et il est temps que l'Église se réveille, l'épouse se réveille, les vierges sages se réveillent. D'accord, les vierges folles, elles se manifestent beaucoup. Hein, mais les vierges sages, il faut que vous vous manifestiez. Les puissances miraculeuses de votre esprit existaient bien avant qu'aucune église n'existe. Les puissances miraculeuses de votre esprit existaient avant qu'aucun monde n'existe. Ce qui est vrai en ce qui concerne votre esprit a précédé l'existence de l'univers et de toutes les religions. Pensez ça comme ça. Est-ce que vous vous rendez compte? La grande, l'immense majorité des gens se contentent d'une religion ou d'une philosophie, alors qu'elle pourrait simplement, mais simplement, prendre possession de la puissance de leur esprit. La puissance de votre esprit est capable de guérir toutes les plaies mentales et physiques. Jésus est venu pour nous enseigner ça. Il est venu pour mourir à notre place, mais il est aussi venu pour nous enseigner cela. Tout ce que j'ai fait, vous pouvez le faire aussi. Ça ne veut pas dire seulement « j'ai pardonné, vous pouvez pardonner, j'ai aimé, vous pouvez aimer, j'ai nourri des gens, vous pouvez nourrir des gens. » Mais tout ce que j'ai fait, vous pouvez le faire aussi, et même encore des choses plus grandes. Où sont les chrétiens qui font des choses plus grandes? Si seulement tu crois en Jésus, le Fils de Dieu, si seulement tu le crois, parce qu'il ne suffit pas de croire en Jésus, il faut le croire ce qu'il dit. Si seulement tu es conscient de sa présence en toi. Quelqu'un m'a écrit cette semaine et me dit « Oh, je vais bien parce que je passe beaucoup de temps dans ma journée en présence de Jésus. » Et le reste du temps alors? Moi, je suis en présence de Jésus tout le temps parce que Jésus est présent avec moi tout le temps, il vit en moi. J'ai pas besoin de chercher sa présence ou d'invoquer sa présence ou d'avoir des moments spéciaux où il est présent. Non, il est avec moi. Est-ce que vous croyez qu'il est avec vous? Est-ce que vous croyez qu'il est en vous? Vous voyez, on a des formules chez les chrétiens qui sont terribles. Il y a un petit cantique que je déteste qui dit « Viens Seigneur Jésus !» Mais comme s'il n'était pas là. Ça, c'est du spiritisme, c'est les spirites qui invoquent les esprits. Mais nous n'avons pas invoqué Jésus pour qu'il vienne. Il est omniprésent, ça veut dire qu'il est partout, et particulièrement en vous. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Si seulement tu le crois, si tu crois ce qu'il dit, si tu as conscience de sa présence en toi, tout est possible. Jésus est venu, on dit, pour nous sauver. Mais nous sauver de quoi? Il est venu pour nous sauver de la prison, de l'imitation dans laquelle le diable nous avait enfermés. Nous sommes dans une prison de l'imitation, nous sommes limités dans une prison coincée. C'est le diable qui nous a enfermés là-dedans. Et Jésus est venu pour nous sauver de l'enfer futur, oui, c'est vrai. Il y a un enfer où seront jetés tous les impies, les incroyants, etc., etc. Il est venu nous sauver de ça, mais plus, il est venu aussi nous sauver de l'enfer présent, dans lequel on patauge, dans des limitations de pauvreté, d'échec, de misère, de souffrance, de frustration. Il est venu nous sauver de ça. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous unir à Jésus, mentalement. Ah, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Mais on s'unit à Jésus spirituellement. Arrêtez avec vos histoires de religion. Écoutez ce que j'ai à vous dire. Devenez intelligent spirituellement. Nous avons un mental. Vous avez une mentalité, j'ai une mentalité. Et Jésus veut être uni avec vous mentalement, dans votre mentalité. Qu'est-ce que j'entends par là? Qu'est-ce que je veux dire par là? Écoutez-moi ou alors arrêtez tout de suite parce que ça va vous friser les oreilles. Le mental, c'est ce qui se passe en nous sans qu'on ait besoin de l'exprimer oralement ou par écrit. Par exemple, le calcul mental, c'est quoi? Hein? N'importe qui le sait. Le mental, c'est ce qui a rapport aux fonctions psychique, aux fonctions intellectuelles. Le mental, le psychisme, c'est notre conscient. C'est ce que la Bible appelle notre âme. Il y a un vocabulaire biblique, il y a un vocabulaire scientifique, il y a un vocabulaire médical, il y a un vocabulaire pour les présidents, pour Sibeth, il y a tout le monde a un vocabulaire, n'est-ce pas? Et le mental, écoutez-moi bien, vous ne pouvez pas croire en Jésus si vous ne savez rien de lui. Vous ne pouvez pas croire Jésus si vous ne savez rien de lui. Et comment est-ce que vous pouvez savoir quelque chose de lui, sinon avec votre âme, votre psyché, votre mental? Les chrétiens mélangent souvent tout. L'âme, l'esprit, ils ne savent plus, ils ne savent pas. Ils confondent l'âme et l'esprit. Mon âme, votre âme, c'est une création. Je vous l'ai déjà dit, je le répète jusqu'à ce que ça rentre. Le corps, Dieu a formé une statue de terre. C'était Adam, mais c'était sans vie. Et il souffla un esprit dans ce corps. Et ce corps devint un être vivant. On trouve ça dans Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière de la terre, il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Le mot être vivant, c'est le mot âme. Votre âme est une création, elle n'existe que parce que votre corps et votre esprit sont ensemble. Et Jésus, quand il est venu dans le monde, il est venu sauver notre âme, l'être que nous sommes. L'être vivant que vous êtes, il est le sauveur de votre âme. votre âme est donc composée de votre corps et de votre esprit, et les deux forment votre âme, l'être vivant que vous êtes. Je vous montre encore un verset dans la Bible pour vous montrer que c'est vrai. C'est dans Ecclésiaste 12, chapitre 12, verset 6-7, où il est dit « Souviens-toi de ton Créateur avant que le cordon d'argent ne se détache et que le vase d'or ne se brise, que la cruche ne se casse à la source et que la poulie ne tombe rompue dans le puits, avant que la poussière ne retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit ne retourne à Dieu qui l'a donné. » Quand tu meurs, ton corps retourne à la poussière où il était. Nous sommes poussière, nous retournons à la poussière. Et notre esprit retourne à Dieu. Où est-ce qu'il est question d'âme là-dedans? L'âme, c'est quand le corps et l'esprit sont ensemble. Quand on meurt, l'âme, le corps, l'esprit se sépare du corps, le corps meurt, il retourne à la poussière. Qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un meurt? Un, son corps retourne à la poussière. Deux, l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. L'âme, c'est l'esprit et le corps. Il y a des gens qui disent nous sommes formés de trois choses, hein, d'une âme, d'un esprit, d'un corps. C'est faux! Nous sommes formés d'un corps et d'un esprit, et ça fait l'âme. Ça fait l'être vivant que vous êtes. Donc, c'est avec votre âme que vous devez vous approcher de Dieu, puisque c'est votre âme qui doit être sauvée. Le dictionnaire dit que notre âme, c'est le principe de la sensibilité et de la pensée opposée au corps. On ne réfléchit pas avec le corps, on s'informe avec le corps. Mais c'est notre âme qui pense, qui réfléchit, qui a une certaine sensibilité. Avec votre corps, vous pouvez entendre parler de Jésus grâce à l'ouïe. Vous pouvez lire au sujet de Jésus grâce à la vue. Ça, c'est le corps qui permet que vous puissiez apprendre au sujet de Jésus. Ça passe par le corps. Mais c'est votre être intérieur, votre âme, votre conscience, votre intelligence, votre mentalité qui vous pousse à croire ce que vous entendez ou pas. Vous ne pouvez pas croire en Jésus sans le mental. Vous ne pouvez pas croire en Jésus sans l'intelligence. Et les gens qui ont un mental tordu, méfiant, soupçonneux, malhonnête, refusent de croire en Jésus parce que ça les dérange. Parce qu'ils se rendent compte que Jésus leur demande beaucoup de choses. Ils ont un mental, une mentalité bloquée dans le matériel et dans les limitations humaines et dans tout ce qui concerne les jouissances du corps, mais ils ne veulent rien savoir au sujet de Jésus qui est esprit. Mais vous qui croyez, vous qui êtes chrétien, vous avez un mental ouvert aux choses de l'esprit. Vous est possible de concevoir qu'il y a un monde des esprits. Votre âme peut percevoir cela. Et c'est pourquoi la Bible dit que celui qui croit en Dieu, pardon, que celui qui s'approche de Dieu, il doit d'abord croire que Dieu existe. Vous trouvez ça dans Hébreux 11, 6. On va l'étudier quand on en arrivera à ce chapitre 11 le vendredi soir. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Comment est-ce qu'on peut croire si on ne sait pas? Et comment est-ce qu'on peut savoir si personne nous dit? Ça passe bien donc par l'âme, par l'intellect. Et la Bible dit aussi que vous ne pouvez pas croire en Jésus si vous ne savez rien à son sujet. On va lire Romains 10, 14. Romains 10, 14. Écoutez, ça c'est vraiment magnifique. J'aime tellement parler de ces choses parce que ça explique, ça met les choses à leur place. Ça met le corps à sa place, ça met l'esprit à sa place, ça met tout ça à sa place. Romains 10, verset 14. Voilà ce qui est dit. Comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Comment les gens peuvent-ils invoquer le nom de Jésus s'ils ne croient pas en lui? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Vous voyez la logique? Comment est-ce que vous pouvez croire en quelqu'un en qui vous ne croyez pas? Et comment vous pouvez croire si une personne est là pour vous expliquer, pour vous dire? Les apôtres ont écrit, ensuite les serviteurs de Dieu prennent ces écrits et vous les expliquent, vous les décortiquent pour vous les expliquer, pour que vous ayez la foi, pour que vous puissiez croire en lui. Je vous dis ça pour que vous compreniez que la croyance passe d'abord par l'intelligence, par le mental, et ensuite, pour celui qui reconnaît la voix du bon berger, quand il entend parler de lui, quand il entend parler de Jésus, il dit « Ah ben, c'est formidable, c'est vrai, ça me plaît, ça m'attire. » Alors celui-là, le Saint-Esprit vient et réveille ton esprit, réveille votre esprit et vous devenez des êtres spirituels parce que votre esprit rentre en communion avec le Saint-Esprit. Mais pas avant. Avant, votre esprit, il ne sert à rien. Il est dans votre corps, mais il ne sert à rien. C'est juste vous marcher avec votre âme. C'est ce qu'on appelle les gens charnels. Les gens qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ok, cela dit, je reviens à ce que je disais au début, maintenant que je vous expliquais les bases. Le diable tient le monde entier dans une prison de malheur, et Jésus est venu pour nous sauver de cette prison de malheur et de limitation. Et c'est par Jésus, nous apprenons que ce qu'il a fait, nous pouvons le faire, et nous pouvons même faire des choses plus grandes. Mais comment pouvons-nous savoir que nous pouvons faire les mêmes choses que Jésus et même des choses plus grandes si nous ne savons pas ce que Jésus a dit? Il faut que nous sachions ce que Jésus a dit. Et une fois qu'on sait ce que Jésus a dit, on croit ou on ne croit pas. Si vous êtes chrétien, la moindre des choses, c'est de croire ce que Jésus dit. C'est pourquoi je dis, il vous faut croire non pas seulement en Jésus, mais croire ce que Jésus dit. Mais pour arriver à ça, à faire des miracles que Jésus faisait, il nous faut croire en lui et il nous faut le croire lui. Et qu'est-ce que ça veut dire croire Jésus? Ça veut dire penser juste. Si Jésus dit ça et que vous croyez ça, vous n'êtes pas juste. C'est pas juste. Il y a quelque chose qui est pas juste. C'est pas équilibré. Il faut que vous croyez comme Jésus dit, que vous vous mettiez au diapason avec Jésus. Si vous pensez que Jésus est encore couché et emmailloté dans une crèche, ou si vous croyez qu'il est le petit Jésus, souvent des gens me disent « Ah, j'aime le petit Jésus », mais attendez, il a grandi Jésus. Et puis il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, il est glorieux Jésus, c'est pas le petit Jésus. Si vous croyez dans le petit Jésus, vous n'êtes pas un chrétien, pardon. Vous n'êtes pas un chrétien, vous êtes un sentimental qui aimait bien les choses de Dieu, mais vous n'avez pas compris qui est Jésus. Si vous pensez que Jésus est toujours sur la croix, c'est pourquoi nous les protestants, on n'aime pas tellement les croix avec Jésus dessus, parce que Jésus, il n'est pas resté accroché à la croix, il est ressuscité, il est vivant, il est tout puissant, il a toutes les clés de tout. Si vous croyez qu'il est toujours le petit Jésus, eh bien, vous verrez jamais des grandes choses dans votre vie. Jamais. Vous devez croire ce qu'il est, et pour savoir ce qu'il est, il n'y a pas besoin d'une révélation surnaturelle. Il suffit d'apprendre ce qu'il est en lisant la Bible. Là, dans la Bible, vous apprenez entre autres que Jésus est divin, qu'il a tout pouvoir et qu'il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et vous apprenez, en lisant la Bible, que si vous pouvez faire les choses qu'il faisait quand il était sur terre, c'est parce que vous êtes de sa nature. Ah bon ? Ben oui. Et ça, je vous l'ai déjà lu, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète parce que il y a des gens nouveaux donc, qui viennent écouter et qui ne savent pas. Alors, 1 Jean 4:17, c'est dans la Bible, 1 Jean 4:17, voilà ce qu'il est écrit. Nous sommes dans ce monde tel que lui, Jésus, il est. Nous sommes dans ce monde exactement comme il est, lui, Jésus. Est-ce que vous le croyez ? Qu'est-ce que votre intelligence dit ? Qu'est-ce que votre mentalité dit ? Votre intellect vous dit « Mais non, je ne suis pas comme Jésus. » Éduquez votre intelligence. Croyez ce que Jésus dit plutôt que ce que votre intelligence abrutie dit. Excusez-moi, mais si vous ne croyez pas la Bible dit que c'est les insensés qui ne croient pas en Dieu. Croyez ce que Dieu dit. Il dit que vous êtes comme Jésus maintenant, qu'il vit en vous. Les choses que vous, qu'il a faites, vous pouvez les faire parce qu'il vit en vous. Vous êtes comme il est. Croyez cela. Croyez cela. C'est vrai que votre mentalité a le droit de ne pas y croire. Mais ma mentalité, c'est de croire ce que Jésus dit, non pas ce que les inconvertis, les incroyants, les païens, les impies, les menteurs, les voleurs. Non, moi je crois ce que Jésus dit. Si vous croyez que Jésus est en vous et que ce qu'il dit est vrai, c'est ça s'unir mentalement et émotionnellement avec lui. C'est ça la vraie spiritualité. C'est ça la vraie spiritualité. La vraie spiritualité, ce n'est pas un truc de planeur. C'est quelque chose de très pratique. Si vous ne voulez pas croire ce que la Bible affirme, libre à vous. Mais c'est vous qui avez tort et ce n'est pas la Bible. La Bible n'a pas tort, c'est vous. Mais la Bible se contredit. Non! Vous cherchez des tas de petites bêtes là où il n'y en a pas. Si vous êtes un chrétien, la moindre des choses, c'est de croire la Bible qui était écrite par les apôtres qui ont connu Jésus et qui ont fait, eux, les mêmes choses que Jésus. Et si vous croyez, tout devient possible. Parce que vous êtes unis avec le Créateur. Et vous devenez un Créateur. Votre esprit et son esprit sont un. Vous êtes un avec lui. Père, je te prie pour qu'il soit un. Non ? Mes frères et sœurs, commencez dès aujourd'hui même. Laissez les miracles se produire dans votre vie. Et persévérez, persévérez jusqu'à ce que toute ombre de doute disparaisse. Jésus est en vous par son esprit. Et beaucoup de chrétiens dorment profondément parce qu'ils ne connaissent pas cette vérité. Ils ne font rien de plus que ce que font les incroyants. Et même, je dirais, ils font moins que ce que font les incroyants. Il y a des incroyants qui font des tas de choses extraordinaires, alors que les chrétiens qui disent « Nous avons un Dieu Tout-Puissant » ne font rien. Et ils sont assis juste le dimanche au culte, dans une église, où ils marmonnent une petite prière à la noix de coco. Pardon ! Il y a quelque temps, je m'amusais avec mon petit-fils, avec un aimant. C'est-à-dire un morceau d'acier qui a été magnétisé. Vous allez dire, ah, ça y est, Michel va nous parler du magnétisme. Non, je ne vais pas vous parler du magnétisme. Je vous donne un exemple, comme une petite parabole. Un morceau de métal, est-ce que vous savez qu'un morceau d'acier qui est magnétisé, il peut soulever environ 12 fois son propre poids ? Mais si vous démagnétisez le morceau d'acier, il ne peut même pas soulever une plume. Eh oui. Eh bien, c'est la même chose. Il y a deux sortes de chrétiens. Il y a ceux qui ont la foi, dans ce que Jésus dit, et ils soulèvent des montagnes, et ils font des miracles, ils rendent la vue aux aveugles, ils font les mêmes choses que Jésus faisait. Ils savent qu'ils sont nés pour gagner, ils savent qu'ils sont nés pour réussir, parce qu'ils ont foi dans ce que Jésus dit, ils sont en communion avec Jésus, et puis il y a les chrétiens pleins de doutes, pleins de craintes, pleins de suspicions. Si une occasion se présente à eux, ils se disent « Ouais, mais je pourrais échouer, si ça marche pas, j'aurai l'air de quoi ?» si je fais vraiment ce que Jésus dit, si je commence à imposer des mains malades, puis les malades sont pas guéris, j'aurai l'air d'un imposteur. Non, je préfère pas prendre de risques. Je veux pas avoir l'air ridicule. » Ce type de chrétien n'ira jamais loin dans sa vie. Parce qu'il a peur. Il a peur d'avancer. Commencez par des petites choses. Jésus n'a pas tout de suite rendu l'aveu un aveugle, il a d'abord transformé de l'eau en vin. Commencez par des petites choses. Ou alors, contentez-vous d'être un stationnaire, et puis posez votre derrière dans l'église, et puis c'est tout, et puis voilà. C'est vous qui choisissez votre mentalité. Quelle mentalité avez-vous? Quel mental avez-vous? Quel mental avez-vous? Vous voyez quand je vous dis que c'est avec le mental. Mes frères et sœurs, il est temps pour vous et pour la gloire de Dieu que vous alliez de l'avant, que vous vous réveilliez, que vous vous mettiez debout et que vous fassiez confiance à Jésus qui vit en vous, véritablement, et qui veut que vous fassiez les mêmes choses qu'il faisait et même encore de plus grandes. Amen. Jésus, merci de bénir ces paroles. Que mes frères et sœurs soient secoués dans leur foi et se mettent à vivre les choses plutôt que de croire simplement bêtement en ne faisant rien du tout. Au nom de Jésus, mon Dieu. Amen. Amen. Au revoir. À bientôt.